Et c'est Sylvain qui ouvre cette deuxième partie. Sylvain, c'est un réalisateur, technicien, mais aussi un musicien. Il va vous surprendre, il travaille la nuit, vous connaissez sa voix, on l'écoute parler des génériques de Radio Courtoisie et plus encore. C'est une configuration bien spéciale. Ce soir, c'est Sylvain qui est derrière la vitre. Vous êtes technicien Radio Courtoisie.
Oui, bonsoir Claudia, merci beaucoup de m'accueillir dans ta soirée musicale. Oui, je suis technicien de nuit à Radio Courtoisie. Je suis arrivé ici il y a 5 ans, le 24 décembre 2020. J'ai la chance de connaître quelques techniciens de la radio dans le privé, en extérieur. Et c'est grâce à eux que je suis arrivé ici aujourd'hui. Voilà, j'ai déjà fait de la radio dans ma jeunesse. J'étais animateur radio dans les années 90 sur une radio locale dans les Yvelines.
Comment vous sentez-vous assis à la place d'un animateur, d'un patron d'émission?
À la place d'un patron d'émission, c'est un peu étrange, c'est un peu spécial. Hein. Le rendu de l'autre côté de la vitre, ça n'a rien à voir, hein, du tout, du tout.
Vous pouvez nous décrire la sensation? C'est indescriptible.
C'est indescriptible. C'est voilà, je pense que ça doit être une habitude aussi d'animer des émissions comme celle-ci. Enfin, des longues émissions. Je vois, il y a beaucoup d'émissions d'une heure et demie. Sans musique, sans blanc, sans coupure, à part un bobino ou une plage musicale, ça doit pas être évident non plus du tout.
Hein. Et moi aussi, je dois vous avouer que ça me fait bizarre de vous voir assis là.
Oui, moi aussi. C'est alors je suis très très heureux d'être là parce qu'en fait de participer à une émission comme tu l'as fait les soirées musicales, bah c'est intéressant, surtout sur les génériques de la radio. C'est une vie, il y a des génériques qui datent qu'ont 20, 30 ans, c'est toute une histoire, je crois, les génériques de la radio, ça fait partie de l'histoire de la radio en elle-même.
J'ai lu qu'il y avait presque 200 génériques, en fait, qui ont été répertoriés sur Internet.
Ouais, c'est fort possible, hein, à mon avis, avant de faire le tour. Après, en plus, il y a même des émissions qui ont changé de générique en cours. En cours, bon bah voilà, il y a des anciens génériques sur certaines émissions, quoi.
C'est une des radios qui possède le plus d'intitulés.
Oh, je pense. Ouais. Ah bah c'est sûr.
Incroyable. Ouais. Oui, et aussi les génériques, Sylvain. Il faut dire, moi je sais pas comment ce que vous en pensez, mais par exemple, quand on lance un générique, il faut faire une annonce dessus. On attend le bon moment on compte presque. Comme un chanteur qui va prendre la parole. Pour prendre la parole, on essaye de placer la voix au bon moment, suivant la musique, et c'est très immersif.
Oui, on laisse souvent le début du morceau commencer et attendre la première pause, qui souvent une trentaine, quarantaine de secondes après le début du morceau, la première pause ou la première mesure où on peut placer notre voix.
Oui, c'est vrai.
C'est ça. Mais les génériques, ça donne souvent le ton de l'émission. C'est-à-dire que souvent, on a une émission calme, avec un générique calme, plus ou politique, ou c'est voilà, ça fait partie de l'émission aussi. Je vois, bon, je vais pas prendre comme, je vais prendre des exemples. Je vois Charles de Meyer avec le Libre Journal des débats, qui a vraiment son générique. Il est bien en phase avec l'émission. Voilà, c'est le débat. C'est le générique a vraiment le sens de l'émission.
Oui, c'est vrai. Et en fait, je ne m'imagine pas le Libre Journal des débats avec un autre générique.
Non. Déjà, nous, on en est habitués depuis le temps. Mm. Et ça va très, très bien avec les thèmes qu'il aborde. La rythmique du morceau est vraiment une rythmique vraiment radiophonique. Je trouve que c'est vraiment un morceau qui est dédié, un générique qui est dédié pour ça. Comme il y en avait un autre que j'ai adoré, moi, franchement, celui que je préfère de tous, c'était celui du Club de la Presse. Et le Club de la Presse, c'est une chanson c'est une musique de Lindsey Stirling. Et je trouve qu'elle est très rythmée aussi, qui donne aussi beaucoup d'élan à une émission. Elle donne de l'élan à l'émission en elle-même. Il y a des génériques un peu plus calmes, un peu plus mélodieux, sur des violons, des trucs comme ça, qui annoncent pas forcément une émission dynamique, quoi. Hein. Bon. Voilà, c'est pas, je critique pas du tout les émissions. C'est-à-dire qu'on sent tout de suite la différence entre une émission de débat qu'une émission, bon, après, à part le cinéma, tout ça, bon, On a des génériques qui sont vraiment dédiés à ça, mais on sent tout de suite la différence entre une émission de débat qui va être vivante ou une émission culturelle ou religieuse qui va être un peu plus, bien plus calme, plus posée.
C'est juste. Dites-moi, Sylvain, quel est votre rapport à la musique ? Vous êtes musicien ?
Moi, je suis musicien. Alors, je suis comme Obélix. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai commencé la musique tout jeune. J'ai eu la chance d'avoir une maman pianiste. Je passais des heures à l'écouter, à la regarder jouer. J'ai joué dans une fanfare communale. Après, j'ai fait le conservatoire où j'ai appris le piano, la guitare. Et j'ai été également batteur pour l'armée française en Allemagne dans les années 92-93 pour animer des baloches. Les baloches voilà, que faisait l'armée française à l'époque. Et puis, guitariste-chanteur dans un groupe de rock qui a duré une vingtaine d'années. Voilà, ça s'est arrêté au moment du Covid. Alors, aujourd'hui, je suis que guitariste-chanteur depuis 2021 dans une formation qui s'appelle Silo, S-Y-L-O, que vous pouvez retrouver sur les réseaux, sur tous les réseaux sociaux. C'est un groupe de reprises pop-rock française, internationale. On se produit partout en France et beaucoup plus l'été dans les campings sur les côtes normandes et bretonnes.
Et c'est vrai que vous pouvez retrouver Sylvain et c'est très impressionnant de le regarder jouer. Il y a une assise, il y a un centrage qui est vraiment voué aux vrais professionnels, je dirais, de la musique.
Ben, je te remercie.
Oui, il n'y a pas de... Tu sais, il n'y a pas de manière. C'est pour la musique est là et c'est aussi... On peut s'évader, je sais que... Le temps n'existe plus, on ne sait
oui.
plus quel jour.
Ah, tout à fait, on pense totalement à autre chose. Ça nous fait ouvrir les yeux sur des choses, sur des ressentis, sur plein de choses, la musique.
C'est une manière de se connaître aussi, n'est-ce pas ?
De se connaître et de partager des choses, des sentiments aussi. Il y a toute une histoire de sentiments qu'on peut partager avec la musique. Avec des musiques un peu plus mélancoliques que du hard rock, de tout quoi.
Vous aimez toutes les musiques, Sylvain, il me semble.
À peu près tout. Alors, je ne vais pas vous cacher qu'avant d'arriver à Radio Courtoisie, je n'étais pas beaucoup calé sur le classique. J'ai fait le conservatoire, donc j'ai appris des morceaux, j'ai appris des thèmes, j'ai appris plein de choses en classique, mais... De là à avoir une connaissance énorme pour pouvoir passer des musiques, la musique classique la nuit, comme on le fait toutes les nuits avec l'équipe de nuit, c'est aussi un apprentissage.
Et c'est ce qu'il y a d'agréable ici, c'est qu'on étend notre culture, je trouve.
Oui,
on apprend.
On apprend plein de choses. Et en plus, le fait de rencontrer les autres personnes qui travaillent à Radio Courtoisie, les autres techniciens, On est tous des artistes différemment, mais on reste tous des artistes. Et c'est sympathique de pouvoir partager ces choses-là ensemble.
C'est vrai. Et c'est une équipe très soudée, très, très différente
ouais.
les uns les autres.
Oui, ouais, tout à fait.
Sylvain, y aurait-il un morceau qui vous ferait plaisir d'écouter ?
Oui, pour clore cet entretien, moi j'aimerais bien qu'on puisse passer un petit Laurent Voulzy, Rock Collection. Pour moi, c'est un titre. Bah déjà, c'est un titre qu'on est en train de travailler avec Silo. C'est un morceau sympathique à chanter, qui rayonne et surtout qui nous fait penser aux beaux moments de la vie. Voilà. Merci beaucoup, Claudia.
Je vous en prie, Sylvain.
C'était un plaisir. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
On a tous dans le cœur une petite fille oubliée, une jupe plissée queue de cheval à la sortie du lycée. On a tous dans le cœur un morceau de fer à user, un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Et la petite fille chantait,
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 un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Everybody's doing a brand new dance now.
Come on, baby, do the locomotion.
On
On a tous dans le cœur le ticket pour Liverpool. Sortie de scène, hélicoptère pour échapper à la foule. Excuse me sir, mais j'entends plus Big Ben qui sonne. Des scarabées bourdonnent, c'est la folie à London. Et les Beatles chantaient.
Et les Beatles chantaient.
Et les Beatles chantaient.
Et les Beatles chantaient.
Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. It's been a hard day's night. Ça va me servir d'aller me faire couper les tifs. Est-ce que ma vie sera mieux une fois que j'aurai mon certif? Betty a rigolé devant ma boule à zéro. Je lui dis si ça te plaît pas, t'as qu'à te plaindre au dirlot. Et je me suis fait virer.
Et je me suis fait virer.
Et les Beach Boys chantaient.
Et les Beach Boys chantaient.
Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Ça faisait
round, round, get around, I get around. Get around, round, round, I get around.
Get around,
get around,
get around.
On a tous dans le cœur des vacances à Saint-Malo. Et des parents en maillot qui dansent chez Luis Mariano. Au camping des flots bleus, je me traîne des tonnes de cafards. Si j'avais bossé un peu, je me serais payé une guitare. Et Saint-Malo dormait.
Et Saint-Malo dormait.
Et les radios chantaient. Café de ma banlieue, t'as vu la bande à Jimmy. Ça fume pas mal, ça roule autour du baby. Le pauvre Jimmy s'est fait piquer chez Disquer, c'est dingue. Avec un single des Stones caché sous ses fringues. Et les loulous roulaient.
Et les loulous roulaient.
Et les cailloux chantaient.
Et les cailloux chantaient.
Un truc qui me colle encore au cœur et au corps.
Nous venons d'écouter Sylvain, technicien, réalisateur à Radio Courtoisie et Rock Collection de Laurent Voulzy. Cette musique lui va si bien. Nous sommes maintenant avec Xavier, aussi technicien et réalisateur de Vos Nuits, et également musicien, il est batteur. Et nous avons commencé cet entretien en parlant de rythme et de son métier de batteur. Il nous livre des secrets de fabrication de la musique, des secrets de musicien. Et nous sommes dans les coulisses de la musique et dans la vie de Xavier. Il se livre ce soir et je le remercie pour sa générosité. Nous parlions avant l'entretien de la facilité à jouer de la musique vite plutôt que lentement. On l'écoute.
C'est plus facile de jouer plus vite que de jouer lentement, en fait.
Comment vous gérez ça, Xavier ?
C'est très compliqué, mais maintenant, moi, je suis au clic, parce que sinon, je vais accélérer.
Vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le clic ?
Alors, un clic, c'est juste comme un métronome, en fait, que tu vas avoir dans tes oreilles et qui va te caler, en fait, pour le temps.
Comment on gère physiquement, en tant que batteur, cette gestion?
Alors moi, on appelle ça les ears, donc on va dire des oreillettes. et donc, du coup, tu vas avoir un... Tu vois?
Ouais.
Et ensuite, ma foi, soit tu peux avoir aussi de la musique avec dans tes oreillettes, ou non. Et donc, du coup, ça permet quand même, si tu veux, de rester. Mais c'est un travail, en fait, assez...
C'est très long.
Enfin, c'est contraignant. Parce que forcément, faut savoir écouter et en même temps écouter le clic. Donc
dissocier.
Le tempo. Dissocier, ouais, c'est ça.
Il y a un travail de respiration.
Oui, tu effectivement, c'est complètement vrai. Parce que au départ, avant de jouer, enfin surtout des gros concerts, on va dire, hein, d'accord? Pas ouais. En répétition, t'as pas besoin. Mais en grand, tu vas devoir prendre sur toi et donc respirer, vraiment. Ouais. Vraiment. Et essaie de faire le vide, en fait, tout simplement.
En fait, la batterie, malgré le fait que le corps soit très, très en action et très dissocié, il y a un travail de méditation intérieure qui est très important.
C'est ça, comme tout instrument de musique, d'ailleurs, en vérité. Il n'y en a pas, les autres, c'est pareil. Moi, par exemple, je vois mon guitariste, sa façon de faire le vide, on va dire, se concentrer, en fait, en vérité, c'est de marcher. Il marche dans les couloirs. D'autres, ça va être de parler avec les gens. C'est différent. Moi, c'est les deux, en fait. Puis au moment où je vais savoir que là, ça va être le bon moment, bah, on se soutient les uns les autres en disant « Rendez-vous au tas de sable ». C'est l'expression. C'est l'expression. Mais c'est vrai, c'est comme ça que ça marche. Enfin, en ce qui me concerne. Après, chacun a son truc, quoi. Toujours. Non, il n'y a pas de truc. C'est chacun son truc, je dirais.
Voilà. C'est pour ça, le jouer de la musique, c'est aussi avoir une connaissance de soi-même.
Oui, je pense. Par exemple, moi, je vois ma chanteuse, elle a besoin de méditer, elle. Elle va aller s'allonger, elle va aller, elle va aller chercher une force intérieure, c'est sûr. Et du coup, là, on la dérange pas, tu vois. Et puis, une fois qu'elle est prête, pourtant, c'est bon, quoi. C'est comme si tu passais un passage, en fait, et pour aller sur la scène, voilà, tout simplement. Alors, tout simplement, oui, ça demande du boulot, mais c'est comme tout, en fait.
Qu'est-ce qui vous a amené à la musique, Xavier ?
En fait, je travaillais avant dans une... c'est très long, mais ma mère travaillait chez Pathé Marconi, EMI. J'y ai travaillé aussi. Et dès le départ, j'avais ce truc bizarre de pouvoir taper partout. Voilà, c'est-à-dire, je prends mes doigts, je tape partout, ce qui faisait... marrer mes amis, et puis du coup, je me suis rendu compte que j'aimais ça, en fait. Sûrement grâce à mon frère et à ma sœur, qui sont plus grands que moi et qui m'ont fait écouter plein de choses. Et puis grâce à la maison de disques, évidemment. Et là, ça m'a emmené. Et puis un ami, beaucoup plus, en avance que moi, m'a dit, tiens, viens faire des percussions sur un truc. Puis je regardais le batteur. J'ai dit, mais c'est ça que je veux faire. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire en plus, quoi. Et du coup, j'ai commencé à prendre des cours, quand même. Je me suis dit, je veux faire de la batterie, moi. Voilà.
C'est l'instrument qui vous a appelé, en fait.
Oui, plus que l'inverse, effectivement. J'ai pas choisi comme si en disant, tiens, c'est venu comme ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, mais là, c'est ça que je veux, en fait. Voilà, c'est ce que j'aime, tout simplement. Hein. Toi, la guitare, j'aurais bien aimé. J'aimerais toujours. Je sais faire un peu de piano, mais je suis pas génial, on va le dire. Mais c'est un instrument qui m'intéresse vraiment. Là, après, ben, ce sera peut-être pour m'amuser, en fait, tout simplement, aussi. Mais la batterie, non. Je me suis vraiment focalisé dessus. Vraiment.
Avez un souvenir de la musique que vous avez écoutée et qui vous a vraiment appelé pour jouer de la batterie ?
Oui. On va dire que peut-être le plus important, et ça c'est sûrement à mon avis dû à mon frère, c'est le jazz et le jazz rock. Voilà. C'est-à-dire le mélange entre les deux, ces deux mondes-là, où j'écoute toujours ça d'ailleurs. Et ensuite, évidemment, tout ce qu'ils écoutaient eux, hein, c'est-à-dire ça va aller de Led Zeppelin, on va dire, oui. Mais ça va aller jusqu'à du jazz comme Stan Clark ou Jeff Beck, que j'adore, ou autre chose. Mais ensuite, il y avait Santana aussi, que j'adorais, parce qu'il y avait beaucoup de percussions et de batteries, etc., etc. Voire même jusqu'au hard rock, métal, ça peut aller n'importe où en fait. J'ai pas vraiment de limite.
Donc vous n'avez pas de limite rythmique, c'est-à-dire que vous passez du binaire au ternaire?
Oui, voilà, c'est un avantage, parce que j'écoute beaucoup de rock progressif aussi, hein, ce qu'on appelle progressif, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Les temps ne sont pas du 4-4, ouais. Ça va être du 7-8, ça va être du 6-8, ça va être du 5-4, etc. C'est ce qui m'amuse. Plus que le truc binaire, ouais.
I'm a traveler, a long time stay. sun, your face the ground. And my eyes fill with sand as I scan this race in life.
Grâce à Radio Courtoisie, il faut l'avouer, j'ai dû découvrir bien plus. Ensuite, je m'intéressais énormément aussi sur la vie des musiciens classiques.
Pourquoi ?
Parce que beaucoup ignorent, en fait. Ben parce qu'en général, on en met comme un piédestal, mais c'est souvent assez compliqué pour eux, en vérité. Qu'on voit pour Chopin, qu'on voit même pour Schubert, qu'on voit pour n'importe qui d'autre. On voit bien que c'est pas idyllique non plus. Hein. C'est assez... c'est une vie de musicien, en vérité, qu'on voit.
Une vie de musicien, vous pouvez nous en parler, Xavier ?
C'est pas simple. Il faut être très clair. C'est pas tout beau, c'est pas tout rose. Hein. C'est compliqué. Il faut avoir beaucoup d'envie. Il faut avoir beaucoup de comment dire.
C'est un combat passion, entre son ambition et la possibilité de réalisation de ses ambitions.
Tout à fait. Et une passion surtout. C'est une passion. En fait. C'est une passion. Tu peux pas composer, par exemple, si on regarde bien et tu connais très bien. C'est une passion dévorante même pour certains, surtout pour des grands compositeurs. On l'a bien vu. Est-ce que tu connais réellement, par exemple, un compositeur classique où sa vie a été idyllique ? Je cherche, j'ai pas trouvé.
Non, je vois pas.
Je ne crois pas.
Je ne vois pas.
Mais par contre, ils l'ont vécu, quoi, vraiment. Puis après, il reste le son et la musique. Et quand même, il faut le dire, à l'époque, il n'y avait pas d'enregistrement. Il a fallu bien que tous les musiciens classiques, réinterprètent, tout simplement, pour comprendre. Pas juste une suite de notes. Et c'est pour cette raison qu'il y a autant de manières de faire, en fait. Et c'est passionnant. J'ai eu cette chance de travailler aussi là-dedans, puisque je travaillais à l'opéra, donc je les ai vus. Je sais comment ils bossent.
Comment ils travaillent ? Parlez-nous-en de votre expérience.
Les musiciens ?
Oui.
Ils travaillent énormément sur, les partitions, déjà. Oui. Mais il va falloir trouver une interprétation. L'interprétation est vraiment essentielle. C'est pour cette raison que tu vas avoir différentes interprétations.
Et puis après, il y a le sens du collectif. Il y a la direction du chef d'orchestre à l'opéra.
C'est ça.
Qui fait, il va choisir par exemple les cordes, il va vouloir telle harmonisation, tel son.
C'est ça.
Et c'est un gros, gros travail finalement.
Je crois que c'est là où j'ai pris des frissons extraordinaires. Ouais. Quand je travaillais là-bas et que je les voyais jouer, ils étaient 70, hein, ouais. Quand même. C'est là où j'ai appris le plus, d'ailleurs, puisque c'est un batteur allemand, percussionniste allemand, hein, c'est pas un batteur. Mais il avait un truc qu'il avait monté lui-même, c'est-à-dire il avait pris des timbales, il avait pris plein de choses différentes, et même si on parlait pas la même langue, il m'a appris, en fait, tous les soirs, il me dit... Comme, bien joué, j'ai essayé, il m'a dit, vas-y, entraîne-toi, parce que c'est de l'entraînement, en fait, hein, c'est du travail. Mm. Et il m'a appris. Et donc, du coup, j'ai appris avec un percussionniste du classique, en vérité. Vraiment. Là, il m'a appris beaucoup. Parce que le spectacle durait 6 mois, et pendant 6 mois, j'ai appris. Tous les jours, tout le temps. Tout le temps, il m'a embarqué, en fait, à chaque fois. Et ça, je l'oublie pas. C'était sur le spectacle Le Fantôme de l'Opéra, mais par une troupe allemande. Ouais, voilà. Ça, c'était extraordinaire.
Vous avez une oreille très aiguisée maintenant. Est-ce que la radio, c'est un médium où votre oreille s'exerce aussi sans cesse ?
Elle s'exerce sans cesse. C'est infini, en fait. En vérité, il n'y a pas de limite. Moi, là, j'ai appris beaucoup dans la radio, par exemple, à parler aussi.
Oui.
Même si je ne chante pas, mais j'aime bien chanter, mais je ne suis pas un vrai chanteur, dommage. Mais par contre, concernant le fait de parler, dans toutes ces années de la radio, j'ai appris énormément, et j'apprends encore, et je crois que je n'aurai pas fini d'apprendre.
Vous jouez avec un autre technicien qui s'appelle Arnaud, dans un groupe qui s'appelle oui. Echoes and More.
Oui.
Vous reprenez des standards de Pink Floyd.
Oui, que Pink Floyd, oui.
C'est une musique qui est vraiment presque symphonique aussi, avec des changements de tonalité qui sont imprévisibles, des changements rythmiques, des nappes qui sont... Et vous pourriez nous parler de cette musique ?
Alors effectivement, Pink Floyd, là, il faut bien connaître, mais c'est un peu particulier, parce qu'en plus, les morceaux sont assez fleuves, c'est-à-dire longs. Hein, pas tous, mais les plus grands standards de ce groupe improbable... on sait même pas le nom qu'on peut leur donner, mais c'est vrai, ils ont sorti des morceaux qui peuvent aller de 13 à 23 minutes, par exemple. Quand tu vas jouer un morceau de 23 minutes, crois-moi, il faut vraiment, vraiment être bien concentré quand même pour pas s'y perdre. Mais comment je pourrais exprimer cette musique? Elle t'embarque, c'est un peu, alors, je vais être comme ça, mais un peu planant aussi. C'est-à-dire, on va essayer de t'embarquer quelque part, en fait. Mais par contre, oui, il y a des changements, il y a des cassures, il faut revenir sur un truc, c'est une musique un peu à part, quoi. C'est pour cette raison qu'on adore la faire, hein. Sinon on ne le ferait pas. C'est un peu particulier, il faut être très clair. Et puis les concerts qu'on fait, ben ouais, ils durent jusqu'à 2h30, donc là, ça fait beaucoup. Et donc il faut vraiment avoir un cerveau pour bien dominer leur musique, qui est vraiment pas si simple que ça du tout, mais vraiment pas. Hein, même si on a l'impression, mais non. En fait, c'est ça. Je dirais que c'est ça que j'aime chez eux, c'est que t'as l'impression que c'est simple, mais ça l'est pas du tout. Et dès que tu commences à faire leur musique, à dire ah oui, effectivement, il y a toujours un piège, il y a toujours un truc un peu bizarre. Et puis, bah, moi, ça me fait rêver, en fait, de jouer cette musique.
Ça vous fait rêver ?
Depuis que je suis jeune. Ah oui.
Et qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette musique, au fond ?
Je crois qu'elle... Alors, ça dépend des albums. Ils en ont fait une quinzaine, d'accord ? Donc, ça dépend de la période. Des fois, ça peut parler de l'humain, hein, comme The Wall, hein, ou de la guerre. D'ailleurs, The Wall, c'est... En fait, ça parle du père de Roger Waters, qui a été à la Seconde Guerre mondiale et qui est mort sur les plages de France, d'ailleurs, à Vers-sur-Mer. Et donc The Wall parle aussi de la folie d'une rockstar, aussi. Animals, un autre album, lui parle plutôt de tous les effets pervers de la société.
Avec ce morceau qui commence avec le son des cochons.
Oui, Pigs. Oui.
Pink man, ha ha,
peut-être que le plus emblématique, c'est Dark Side of the Moon. Cet album parle plutôt de l'univers. On va plus loin. On ne s'attarde pas sur nous-mêmes. On voyage là. On voyage vraiment. Avec le triangle et l'arc-en-ciel. En fait, c'est pas un arc-en-ciel. Hein. C'est un prisme. C'est un diamant.
We'll be right back.
Nous venons d'écouter Xavier, technicien réalisateur de Radio Courtoisie, ainsi que Led Zeppelin avec Cashmere, Pigs et Time de Pink Floyd. Pour conclure cette soirée musicale, cette série dédiée à Radio Courtoisie, au patron d'émission de Radio Courtoisie, aux réalisateurs, aux techniciens, nous sommes maintenant avec un dandy de la littérature échappée du 19e siècle. Il y a chez Lucien Rabouille, qui dirige le Libre Journal des Littératures le jeudi en semaine C de 21h30 à 23h et le Libre Journal de Lucien Rabouille le vendredi en semaine C de 19h30 à 21h. Il y a de la sobriété, de la distinction, et nous avons toujours l'impression de le réveiller quand on lui parle. Le réveiller d'une concentration intérieure extrême, il n'est pas dénué d'humour, mais à quoi pense Lucien Rabouille ?
assez ignorant de la musique qui introduit chacune des émissions.
Il faudrait choisir un nouveau générique pour votre émission, n'est-ce pas, le Libre Journal de Lucie Rabouille? Quel générique pourriez-vous choisir?
Eh bien, l'autre jour, quelqu'un, un ami, me suggérait, je ne sais pas si vous avez vu le film Meurtre dans un jardin anglais, la bande-son est faite par Martin Liman, vous voyez?
Oui.
Et il y a vraiment, il y a une espèce de symphonie de campagne, des trombones, je ne sais pas quoi, etc. Et la musique qui fait rire, ouais, parce qu'en plus on imagine des images un peu extravagantes derrière du Meurtre dans un jardin anglais. Donc j'opterai pour cette solution.
Votre rapport à la musique, parce que là vous me parlez d'images, vous me parlez de trombones, peut-être des trombones, mais au fond, quel est votre rapport à la musique?
Alors, les trombones, c'est au hasard, bien sûr. En fait, je ne connais absolument rien à la musique. Quand j'étais collégien, tout le monde, même les mauvais élèves, avaient des très bonnes notes avec la flûte à bec et le chant, et moi j'avais pas la moyenne. Et c'était pas du tout par mauvaise volonté de ma professeure, qui était plutôt au contraire, qui avait plutôt volonté de me tirer vers le haut. Je n'avais pas d'oreille, je n'avais pas ce moment d'oreille. Mon père était un bon pianiste, pourtant, un bon musicien. Outre ses activités professionnelles, fréquenter des mélomanes, des musiciens, etc. J'ai vraiment, c'est vraiment un environnement dans lequel j'ai grandi, mais je n'ai jamais développé d'oreille, ni même de talent, bien sûr de talent instrumental, ni même d'une connaissance vague, érudite de la musique. Je ne connais absolument rien à la musique. Les quelques musiques que j'écoute sont d'un mauvais goût inouï, enfin, j'en ai assez honte d'ailleurs. Et de ce point de vue, c'est un peu handicapant, puisque dans le Libre Journal, tant des littératures que de Lucien Rabouille, donc le mien, nous avons des mélomanes et nous avons des gens qui savent faire des rapprochements entre la musique et les œuvres que nous évoquons, et je m'appuie beaucoup sur eux, puisque parfois nous lançons de nouvelles parties sur un air de César Franck, choses comme ça. Et pour moi, c'est une épiphanie, c'est une découverte. Je suis incapable de dire ce que j'aime dans un morceau de musique, je suis incapable de sonder en moi ce qui pourrait être une sensibilité musicale, un goût musical, une appétence musicale. Je n'ai absolument aucune idée. Oui.
Ça, vous n'avez jamais aucune émotion, aucune sensation quand vous écoutez de la musique?
Si, mais peut-être à des fins d'accompagnement, vous voyez. La musique du 17e, je crois, si je ne dis pas de bêtises, est plutôt faite pour l'accompagnement. Dans le théâtre, là où l'idée qu'on écoute un concert, magistralement, vous voyez, et uniquement cela, c'est plutôt 19e. J'ai plutôt mettre de la musique 17e, vous voyez, choses comme, alors, Oui, voilà, choses comme ça. Ou alors un peu plus, tout petit peu plus tardif, des choses comme Purcell ou quoi. Musique anglaise. Donc, pas des choses qui sont considérées comme étant de l'immense musique, vous voyez. Parce qu'un mélomane irait écouter, je sais pas, une tétralogie bactérienne, je sais pas, je serais absolument incapable d'écouter 4 heures de musique, vous voyez. Alors, ça peut aider sur une tâche besogneuse, quand on fait la cuisine, quand on corrige une copie, quand on fait un peu d'ordre dans un déroulé d'émission, mais il ne faut pas que ça déconcentre trop, vous voyez, il ne faut pas que ça émeuve trop, justement. Ça peut éventuellement calmer, accompagner, mais pas plus.
Qu'est-ce qui vous bouge dans la vie? Qu'est-ce qui vous transcende?
Les animaux, il y a une mission littéraire, outre nos activités professionnelles, donc parce que nous le faisons par passion. Nous allons écrire, donc, puisque je ne suis pas seul évidemment à réaliser l'émission, donc je n'emploie pas un nom de majesté, mais un nom collectif. Donc nous aimons écrire, nous aimons lire, nous aimons commenter, nous aimons parler évidemment, avoir ces discussions. Par ailleurs, j'ai fait des études d'histoire, et l'aspect proprement de recherche historique m'a beaucoup intéressé, je l'ai pratiqué. Je réside souvent en province, donc activité liée effectivement au jardin, à l'agrément, à la nature, à la grande, aux grandes marches, à la pêche, des choses comme ça. Mais bien sûr, la musique est un peu le divertissement consacré aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que les concerts, les instruments, tout ça, enfin, vraiment, c'est devenu un peu un mode de divertissement universel avec le sport, vous voyez. Vraiment accessible aux masses, c'est pas quelque chose qui rentre dans mon quotidien.
Et vous nous parliez tout à l'heure de musique vraiment, comment vous les aviez qualifiées, de mauvais goût?
Ah oui, mais j'en dirais pas, absolument pas un mot aux auditeurs, parce que je n'ai déjà vu absolument pas les introduire sur de mauvais chemins esthétiques, sur des musiques, une espèce de musique un peu corruptrice, vous voyez, un peu étrange, qu'on va chercher par, non, vraiment, les musiques d'aujourd'hui, vous voyez, ce qu'ils appellent les musiques de ghetto, vous voyez, choses comme ça, qui sont intéressantes d'ailleurs, parce qu'en fait, on voit comment les gens vivent, en fait, et d'ailleurs, ils le disent pas sans, avec beaucoup de filtres, et puis ça permet parfois d'apprendre une langue également, alors de la pire des manières, sans doute. Mais en allant chercher directement dans les idiomes les plus déformés, les plus bazardés. Mais à part ça, voilà. Aujourd'hui, vous savez, il est de bon ton de faire valoir une espèce d'éclectisme dans ses goûts. On peut à la fois aimer Cicéron et le club de la Juve. On peut à la fois aimer, je sais pas, du rap et Marcel Proust. Je pense pas que ce soit sincère. Je pense qu'on a parfois des bons goûts et des mauvais goûts, mais que comment dire le ça ne se situe pas sur la même échelle, vous voyez, sur la même échelle d'appréciation. C'est-à-dire que tout le monde a une part un peu médiocre, un peu, vous voyez, ça peut être de la gloutonnerie, ça peut être effectivement un mauvais goût artistique, mais je suis un peu mal à l'aise avec les gens qui érigent, vous voyez, leur éclectisme, l'éclectisme de leur goût et leur éclectisme culturel comme une espèce de vertu ou d'originalité.
Il vous arrive de danser entre amis?
Oui, très mal, très mal. Un peu comme, vous savez, Paul Maurice dans L'œil du monocle, je ne sais pas si vous voyez le film. Oui. Et ben, je me trouve un peu comme ça, mes amis. Alors, ça ne me gêne pas du tout, j'ai aucune gêne, vous voyez. Évidemment, j'ai aucun rythme, parce que quand on n'a aucune oreille, je pense qu'on n'a absolument aucun rythme, vous voyez. Le fait d'être guindé sur une piste de danse, alors que tout le monde, parfois, connaît les bonnes passes et c'est les bons enchaînements, etc., me gêne absolument pas, vous voyez, au contraire.
Et vous auriez un morceau à nous citer sur lequel vous avez aimé danser?
Non, non, non. Hélas, non, je ne les retire pas de toute façon. Même si j'aurais aimé danser sur un morceau, même si j'aurais aimé danser sur un morceau.
Vous n'avez aucune musique en tête? Jamais?
Là, vraiment, vous me posez une colle. Là, vous me prenez au dépourvu. Ouais, J'aurais pu sonder ma conscience plus profondément. Et voir qu'effectivement, il y a peut-être eu un moment où un morceau m'aurait vraiment marqué, parce que ceci, un contexte de séduction, vous voyez, mais je ne suis pas incapable de voir.
Et en sondant votre conscience, nous venons d'écouter le générique des littératures de Enescu, Rhapsodia Romana numéro 1 en La majeure opus 11, et le générique que propose Lucien Rabouille, Michael Nyman, Chasing Cheap is Best Left to Shepherds, du film Meurtre dans un jardin anglais, et c'est sur le E inoubliable de Lucien Rabouille que cette soirée se termine et que cette série dédiée au générique de Radio Courtoisie s'achève. J'ai été enchantée de passer cette soirée en votre compagnie, et à la suite de cette série, je vous propose une nouvelle série consacrée à l'église de la Madeleine.